Une vie, une œuvre, bonjour à tous. Aujourd'hui, Camille Jusat et Charlotte Roux nous invitent dans le Paris de Napoléon III. Georges Eugène Haussmann est né le 27 mars 1809 à Paris, où il mourra le 11 janvier 1891 à l'âge de 81 ans. Préfet de la Seine pendant 17 ans, il est à l'origine de grands travaux parisiens, comme le percement du boulevard Saint-Michel, les axes ouverts qui donneront les grands boulevards, ainsi qu'un certain nombre de parcs et jardins, comme le bois de Boulogne, le parc Monceau, le parc des Buttes-Chaumont, le parc Montsouris ou le bois de Vincennes. L'objectif est aussi de mettre en valeur les monuments de la capitale et d'en construire d'autres, comme l'Opéra Garnier, chef-d'œuvre de l'architecture éclectique propre au XIXe siècle.
Duc de Persigny, mémoire, 1896. J'avais devant moi l'un des types les plus extraordinaires de notre temps. Grand, fort, vigoureux, énergique en même temps que fin, rusé, d'un esprit fertile en ressources, cet homme audacieux ne craignait pas de se montrer ouvertement ce qu'il était. Avec une complaisance visible pour sa personne, il m'exposait les hauts faits de sa carrière administrative, ne me faisant grâce de rien. Il aurait parlé 6 heures sans s'arrêter, pourvu que ce fût de son sujet favori, de lui-même. L'orgueil du triomphe illuminait son front. Quant à moi, pendant que cette personnalité absorbante s'étalait devant moi avec une sorte de cynisme brutal, je ne pouvais contenir ma vive satisfaction. Je jouissais d'avance à l'idée de jeter cet animal de race féline à grande taille au milieu de la troupe de renards et de loups ameutés contre toutes les aspirations généreuses de l'Empire. Je lui dis ouvertement sur quel poste et à quelles conditions j'avais l'intention de le proposer à l'empereur. À la vue et à l'odeur de l'appât, sans hésiter, il se jeta dessus avec fureur. Georges Eugène Haussmann, le préfet qui bâtit Paris. Un documentaire de Camille Jusat et Charlotte Roux.
Moi, ce qui m'amuse beaucoup, c'est que le Paris d'Haussmann, en réalité, la France d'Haussmann, le modèle parisien a été propagé partout en province. Donc, quand on parle d'Haussmann, on parle de toute la France.
Haussmann a personnalisé son œuvre, si vous voulez. Il a fait une œuvre de préfet, mais il n'est pas l'unique auteur de ce qu'on appelle son œuvre. Il y a des ingénieurs, il y a des architectes, il y a beaucoup de gens qui ont travaillé à cette œuvre. C'est lui qui les a récupérés en tant que préfet. C'est vrai qu'il était un peu le patron, mais les idées, elles viennent plutôt de Napoléon III. Haussmann, finalement, était en position administrative et il a su récupérer cette œuvre en rédigeant ses mémoires. C'est lui-même qui s'est construit sa postérité.
C'est un personnage très ambitieux, il en existe encore plein aujourd'hui. Je pense qu'en soi, il n'incarne pas un type nouveau ni un type périmé. Il est l'entriste, l'ambitieux, qui a en revanche pour lui une pleine conscience de la tâche qui lui est confiée. Et si on voulait faire un raccourci de la biographie d'Haussmann, on pourrait dire que cet homme n'a vécu pleinement que les 17 années de sa magistrature. Le reste, c'est une gestation lente et contrariée, et les 20 années pendant lesquelles il survivra à sa destitution, c'est un lent déclin, un chant du cygne poignant, rauque et chevrotant à la fin.
J'ai vu le jour à Paris, le 27 mars 1809, dans un petit hôtel entre cour et jardin, qui dépendait de l'ancienne propriété du fermier général Beaujon, et que, préfet de la Seine, je fis démolir pour former la petite place où finit le boulevard Haussmann et commence l'avenue de Friedland, tout en haut du faubourg Saint-Honoré. Baron Haussmann, mémoire, 1890.
Alors attends, oh là là, il y a tout le monde, ils sont tous dans la tombe.
Au cimetière du Père Lachaise, avec Xavier Mauduit, historien.
Il y a le baron Haussmann et son épouse Octavie de la Harpe. Quand on regarde, on voit leur fille. Alors c'est leur fille qui est là. C'est dur à voir à travers la porte. Ça, c'est de la chapelle qui sait se tenir. Il n'y a même pas de poignée à la porte. C'est du lourd, hein. C'est très entretenu et on ne pouvait pas s'attendre à quelque chose de moins impressionnant pour le baron Haussmann qui a transformé Paris. Il lui fallait vraiment une chapelle d'une solidité remarquable. Et ça résonne. Il s'est mis vraiment dans l'allée centrale. On est obligé de passer devant lui. Et ce qui est formidable, c'est qu'il est juste à côté de Musset. Moi, je voulais absolument voir Musset. J'adore Musset. Et en fait, il n'y a qu'un tombeau d'écart entre Musset et Haussmann. C'est rigolo parce que on est sur des contemporains, plus ou moins. Surtout pas du tout dans le même monde. Hein. D'un côté, on est dans la réalité architecturale. On pourrait même dire l'argent, quoi. Peut-être une forme de spéculation. Et dans l'autre côté, on est dans la poésie. Et pourtant, ces deux hommes sont de la même génération. Ils ont, disons, cette même vision que Musset a bien décrit dans la confession d'un enfant du siècle. C'est cette vision d'une génération qui est née sous Napoléon et qui n'a jamais vraiment connu Napoléon. Mais même quand on réfléchit, c'est celle de Napoléon III. Parce que Napoléon III est né en 1808. Donc là, on a la petite brochette, hein, 1808, Louis-Napoléon Bonaparte, futur Napoléon III. 1809, Haussmann, le futur baron Haussmann. Et 1810, Alfred de Musset. Voilà, on a cette génération-là qui va prendre des voies différentes. C'est-à-dire qu'on va avoir celle de Hugo, de Musset, qui vont toucher au romantisme et qui vont adorer la figure de Napoléon, qui très vite entre dans la légende. Hein, Napoléon n'est plus un personnage historique présent dans l'action politique dès la Restauration. Ça y est, c'est terminé, c'est un personnage repris par le romantisme. Et puis après, on va avoir une autre voie qui va être celle plus de Louis-Napoléon Bonaparte, futur Napoléon III, de son entourage, hein, les gens comme Fleury, Persigny, cette même génération pleine de jeunesse, et puis Haussmann, qui eux vont avoir une relecture en fait de l'épopée napoléonienne, ou en tout cas des masses de granit de ce qu'a fait Napoléon, une relecture en disant il faut l'adapter à l'ère du temps, et 50 ans plus tard, oublier le personnage Napoléon et reprendre une idée et essayer de l'appliquer. Mais en fait, dans les deux cas, il y a cette figure tutélaire de Napoléon qui a donné, je pense, à cette génération une idée exceptionnelle que tout est possible. On peut faire des choses.
Il faut savoir qu'Haussmann, il le dira d'ailleurs dans ses mémoires qu'il rédigera à la fin de sa vie, est bonapartiste de cœur, de naissance et d'acte.
Rue Danton, avec Éric Anceau, historien.
En effet, il appartient à une famille bonapartiste d'origine, puisque son grand-père maternel, le général baron d'Enzel, a été honoré par Napoléon et on vit dans cette famille, dans le culte du premier empereur.
Haussmann fait partie de cette cohorte d'hommes neufs qui vont refonder la France.
Dans une loge de l'Opéra Garnier, en compagnie de Nicolas Chaudin, écrivain.
C'est un garçon qui a grandi à la toute fin du Premier Empire. À défaut de gloire militaire, il cherche le commandement et la gloire dans l'administration, mais avec cette même quête d'en découdre et de gagner des galons. Haussmann, du reste, vient d'une famille qui est assez prospère. Sa famille est une famille d'origine allemande, alsacienne, installée en Alsace, protestante. Son grand-père a repris une manufacture d'indienne qui approvisionne Versailles et les Tuileries. Le père d'Haussmann sera maire de Versailles pendant la Révolution. Il commercera beaucoup avec l'armée. D'ailleurs, c'est simple, hein, Haussmann fait ses études à Condorcet, avec comme condisciple Alfred de Musset, le futur duc d'Orléans. Non mais c'est vous dire qu'il fréquente déjà l'élite. Ce n'est pas un garçon qui sort de nulle part.
Un mot par lequel, encore étudiant en droit sans vocation précise, j'entendis mon grand-père résumer le récit de certains faits, pesa très certainement plus tard sur le choix de ma carrière. On ne sait pas assez, disait-il, combien la France renferme de ressources et combien elle deviendrait riche et puissante si elle était bien gouvernée, bien administrée surtout. N'y trouve-t-on pas, en termes moins éloquents, ce que longtemps après, le prince président, qui fut Napoléon III, déclarait dans le programme de Bordeaux « L'Empire, c'est la paix ». Quand il traçait le tableau des conquêtes à faire, en France même, terminé par cet appel entraînant aux forces civiles du pays, « Et vous qui m'écoutez, vous serez mes soldats. » Baron Haussmann, Mémoire, 1890.
La fonction publique, la haute fonction publique, naît officiellement avec le Premier Empire. Napoléon Ier instaure ce corps des préfets. Et ce corps des préfets va beaucoup évoluer au gré des changements de régime politique, mais grosso modo, à partir de 1830, naît cette espèce de grand corps d'État qui devient assez vite très technocratique. Quelques préfets issus de la carrière par une filière, une matrice déjà très rodée, et c'est le cas d'Haussmann. Selon un parcours assez lent, il faut dire, il gravit les échelons, secrétaire général de préfecture, sous-préfet, etc., etc. Comme c'est un personnage assez entriste, comme c'est un personnage qui ne parle que de lui, comme c'est un personnage qui ne songe qu'à progresser, il enquiquine la terre entière, cet homme-là. Pour les préfets, avoir Haussmann dans une sous-préfecture, c'est un enfer. Ah, c'est sûr, la sous-préfecture sera bien administrée, mais ce ne seront que lettres de récrimination, lettres de revendication, lettres de réclamation, etc., etc. Il est détesté de ses supérieurs hiérarchiques. D'ailleurs, toute sa carrière, il sera détesté de ses supérieurs hiérarchiques.
Alors, le baron Haussmann est un homme très particulier qui dénote à tout point de vue dans le corps préfectoral et dans la haute administration de l'époque. Imaginez, on le sait qu'au XIXe siècle, les Français sont plus petits qu'ils ne le sont aujourd'hui. Or là, nous avons un homme absolument massif, 1m92, mais avec une très très grande finesse d'esprit, qui a cette particularité de savoir jauger les hommes dès le premier entretien qu'il a avec eux.
Le 10 décembre parut enfin. Ce jour-là, ma compagnie était de garde à celui des bureaux d'élection qui se tenait à l'ancienne mairie, sur les fossés Saint-Éloi, en face de la grosse cloche. Mes hommes inoccupés entre les factions échelonnaient sur le passage des électeurs et leur disaient à mi-voix « Pensez au neveu du petit caporal ». Et la plupart des gens du peuple souriaient en clignant de l'œil. Voici le résultat, en nombre rond, des votes du département. Louis-Napoléon Bonaparte, 104 000. Le général Cavaignac, 20 500. Ledru-Rollin, 8 400. Lamartine, 537.
Alors Charles-Louis Napoléon Bonaparte, donc le neveu de Napoléon Ier, croit en son étoile en fait, hein, dès sa plus tendre enfance, et il y est encouragé par sa mère qui lui voit un destin politique incroyable. Il estime qu'il sera celui qui succédera un jour à Napoléon, qui reprendra en fait le flambeau du bonapartisme. Donc lorsqu'il va devenir président de la République, en décembre 1848, le premier président de la République de notre histoire, ça n'est pas du tout un républicain. Son idée est de mettre en place un régime très vertical. Le 2 décembre 1851, Charles-Louis-Napoléon Bonaparte fait un coup d'État très original, puisque c'est lui qui est aux affaires, il est président de la République, mais pour se maintenir au pouvoir. Coup d'État qui va être extrêmement sanglant, il faut le dire, à Paris, mais qui va réussir et qui va être conforté, en quelque sorte, à défaut de la légalité, légitimée par les urnes, puisqu'un plébiscite va être organisé en décembre, trois semaines après le coup d'État, qui va donner l'aval, l'assentiment du peuple à Louis-Napoléon Bonaparte pour passer à l'Empire.
Haussmann n'est pas associé pleinement au coup d'État. Il est déjà préfet, on le mute en Gironde, et on le prie de partir en Gironde avec pour mission de tenir le département. Mais lui, il ne sait pas que le coup d'État va avoir lieu. Dans ses mémoires, après coup, il expliquera qu'il est mis au courant par des sous-entendus. Seulement, Napoléon III, enfin le futur Napoléon III, le prince-président Louis-Napoléon, l'a déjà remarqué dans Lyon notamment. Haussmann a eu l'occasion, lors d'un voyage en train, de lui faire part de son bonapartisme prosélytique. C'est un bonapartiste tout neuf, tout feu, tout flamme. Et Napoléon III est très surpris de trouver un tel partisan de l'Empire autoritaire avant la lettre. Et note bien ceci. Par ailleurs, Haussmann a quand même l'auteur de quelques prouesses, parce que c'est un homme qui est doué d'un très grand courage physique. Donc c'est quand même un homme qui est capable de mater une émeute ouvrière sans faire tirer un coup de fusil, sans mettre en marche un seul bataillon. Par sa seule personne, il arrive à imposer aux émeutiers le silence et à les convaincre de rentrer chez eux. C'est ce qui s'est passé justement dans Lyon. Donc il est forcément très remarqué pour ses aptitudes.
Pour commencer, je désirais un poste de secrétaire général de préfecture, où je pusse me préparer à l'administration active par un certain maniement d'affaires. Le 22 mai 1831, je fus attaché comme tel à la préfecture de la Vienne. 22 ans et quelques jours plus tard, le 23 juin 1853, j'étais nommé préfet de la Seine.
La nomination de Sman en 1853, d'abord, n'a rien d'extravagant, n'a rien d'épiphanique non plus. Tout simplement, Napoléon III, alors même qu'il est prince-président, entreprend des travaux dans Paris, et il sait que pour mener à bien son grand chantier de réformation urbaine, il va lui falloir une administration municipale adéquate. Donc, il fait auditionner par le ministre d'Intérieur de l'Intérieur de l'époque, le duc de Persigny, enfin qui n'est pas duc d'ailleurs à l'époque, qui est comte. Il fait donc auditionner les cinq préfets les plus importants, celui du Rhône, celui de la Gironde, Haussmann, donc celui de la Seine inférieure, c'est-à-dire celui de Rouen, etc., etc. Et Haussmann fascine immédiatement Persigny, qui le rencontre pour la première fois. Et Persigny comprend qu'il est en face d'une bête fauve, qu'il est en face d'un type qui est capable de tout et qui en même temps sera un homme docile. C'est peut-être là qu'il y a une petite erreur. Il sera loyal, mais pas docile.
Charles-Louis Napoléon Bonaparte, le futur Napoléon III, a de très grands projets pour la capitale. N'oublions pas qu'il a vécu à Londres. N'oublions pas qu'il a l'expérience des États-Unis. Il est le seul futur chef d'État au XIXe siècle à avoir connu la ville de New York, un plan en damier. Et s'y ajoute une passion de cet homme pour l'architecture, pour le dessin, pour les jardins, pour les espaces verts. Donc, lorsqu'il va arriver à Paris en septembre 1848, à l'embarcadère du Nord, la gare du Nord, il a un plan de Paris roulé sous le bras, et ça n'est pas une image, c'est la réalité. Il y a mentionné toutes les artères qui doivent être percées dans la capitale, l'endroit où l'on doit positionner les gares, les espaces verts qui doivent être mis dans Paris pour que Paris ressemble à Londres.
C'est simple, les objectifs de la réformation de Paris, ils sont multiples, il y a des objectifs absolument techniques et humanitaires. Et il ne jouit absolument pas de la gloire des armes, ça n'est pas un grand capitaine, il s'est même ridiculisé dans des aventures, dans des coups d'État misérables. Et donc, sa légitimité, il va la chercher dans la modernité. Et il faut un emblème, il faut un fanal à la modernité du règne qui s'ouvre. Ce fanal, ce sera Paris. Il va moderniser Paris, il va frénétiquement moderniser la capitale pour montrer au monde entier que le Second Empire, c'est la modernité. Et Paris est véritablement le masque du régime, le masque et finalement son âme aussi.
Parti le matin, dès 7 heures, du quartier de la Chaussée-d'Antin que j'habitais avec ma famille, je gagnais d'abord, après bien des détours, la rue Montmartre et la pointe Saint-Eustache. Je traversais le carreau des Halles, alors à ciel ouvert au milieu des grands parapluies rouges des marchandes de poissons, puis les rues des Lavandières, Saint-Honoré et Saint-Denis. La place du Châtelet était bien mesquine à cette époque et la renommée du restaurant du Veau qui tête en éclipsait les souvenirs historiques. Je franchissais le vieux pont au change que je devais plus tard faire également reconstruire, abaisser, élargir. Je longeais ensuite l'ancien palais de justice, ayant à ma gauche l'amas ignoble de tapis francs qui déshonorait naguère encore la cité et que j'eus la joie de raser plus tard de fond en comble, repère de voleurs et d'assassins qui semblaient là braver la police correctionnelle et la cour d'assises. Poursuivant ma route par le pont Saint-Michel, il me fallait franchir la pauvre petite place où se déversaient, comme dans un cloaque, les eaux des rues de la Harpe, de la Huchette, Saint-André-des-Arts et de l'Hirondelle, au fond de laquelle apparaissait, comme une discordance, l'enseigne du célèbre parfumeur Chardin. Enfin, je m'engageai dans les méandres de la rue de la Harpe pour gravir ensuite la montagne Sainte-Geneviève et arriver par le passage de l'hôtel d'Harcourt, la rue des Maçons-Sorbonne, la place Richelieu, la rue de Cluny et la rue des Grès sur la place du Panthéon à l'angle de l'école de droit.
Je vais juste vous montrer quelques images qui datent donc de cette même période, qui sont issues de cette même commande.
Dans les réserves du musée Carnavalet, avec Anne de Mondenard, conservatrice.
Alors, Charles Marville est une figure très importante de la scène photographique des années 1850. Ça fait partie vraiment des grandes figures de cette époque. Là, Marville agit dans le cadre d'une commande de la ville de Paris. Donc, avec un tirage très, 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 très sombre, hein, la rue du Gindre, qui montre ses vieilles ruelles et une épreuve rue du Jardinet et cul-de-sac de Rohan. En fait, c'est des noms de rue qu'on trouve plus, où là on voit effectivement une boutique un peu misérable aussi, où donc c'est des photographies qui sont faites pour garder la mémoire de la topographie de Paris avant les transformations d'Haussmann. Et donc on peut évoluer dans un Paris avec des rues plus ou moins étroites, avec un pavé qui est souvent luisant. On a peu de soleil qui rentre dans l'image et à l'intérieur des rues. On a toujours l'impression qu'il fait un peu gris, hein, dans ces photographies du Paris photographié par Marville. Et Marville est là à cet instant pour photographier ce bâtiment avant qu'on n'en ait plus aucune trace.
La génération présente ne se doute même pas de ce qu'était cette portion de Paris avant sa transformation complète de 1852 à 1854. Elle ignore que la première section de la rue de Rivoli, qui borde le jardin des Tuileries, s'arrêtait court après le pavillon de Marsan et le passage de l'Orme. Au-delà se trouvait un immonde quartier, composé de maisons sordides, sillonnées de ruelles étroites, qui, de la rue Saint-Honoré, s'étendaient jusque sur la place du Carrousel, qui l'encombrait en majeure partie. Il couvrait presque toute la surface actuelle de la place du Palais-Royal, puis se continuait sans interruption le long du Louvre, qui l'enserrait à l'ouest et au nord, jusqu'à la soi-disant place de la Colonnade, obstruée aussi de constructions ignobles, et se reliait au quartier, non moins impraticable à la circulation, qui s'étendait jusqu'à la mesquine place de Grève. Là s'élevait l'hôtel de ville, reconstruit par messieurs les Sueurs et Godes, sous l'édilité de monsieur le comte de Rambuteau.
Paris, en 1850, offre un visage contrasté. La littérature de l'époque, Haussmann lui-même dans ses mémoires, et tous les promoteurs d'une réforme urbaine insistent sur la crasse de cette ville, sur son entassement et sur son congestionnement. C'est une ville de plus d'un million d'habitants, presque deux fois millénaire, et qui agglomère, dans un assez grand désordre, il faut le dire, des strates d'époques différentes, et surtout de qualités différentes. Il y a le centre de la rive droite qui est extrêmement insalubre, une eau d'une qualité lamentable, mais à côté de ces taudis, il y a la ville splendide qu'ont fait les rois, qu'ont fait un certain nombre de promoteurs immobiliers, et dans cette espèce d'entre-là, il y a des joyaux, l'île Saint-Louis, le complexe de la place Vendôme et de la place des Victoires, la place de la Concorde, toute neuve, rive gauche également. Et puis, il y a des nouveaux quartiers qui se sont développés sous la Restauration, le quartier François 1er, par exemple, et même sur la rive gauche, le quartier de Grenelle. Seulement, ce sont des nodules qui viennent s'agglomérer à une espèce de roncier ancestral, impénétrable.
Au parc Monceau, Pierre Pinon, historien de l'architecture.
Quand il est arrivé à Paris, il a repris les idées d'un certain nombre d'architectes, d'ingénieurs, de notables parisiens qui, dans les années 1840-1845, ont cherché à résoudre le problème de Paris. Alors, le problème de Paris, c'est qu'on y circulait mal. Alors, il y avait plusieurs solutions à ce problème. Il y avait la possibilité d'aligner les rues, c'est-à-dire de construire en retrait d'alignement. Mais on s'est aperçu qu'aligner toutes les rues de Paris qui devaient l'être, ça aurait duré 50 ans, donc c'était pas réaliste. Donc on a cherché une autre solution, qui était la percée. Donc les théoriciens des années 1840-1845 ont établi la règle de la percée, qu'a repris Haussmann. La percée, c'est démolir dans les quartiers existants et percer une rue nouvelle. Ce qui est coûteux, mais efficace.
Le principe, c'est de tailler dans la ville, dans ce qu'elle a de plus dense, dans ce qu'elle a de plus congestionné, dans ce qu'elle a de plus impénétrable aussi. Et donc ça, c'est un des principes d'Haussmann, un des principes, on va dire, de la chirurgie haussmannienne. C'est de taillader dans les chairs. Et si vous regardez une photo aérienne de Paris, le parcours des boulevards de Strasbourg, qui a été d'ailleurs amorcé avant la magistrature d'Haussmann et le boulevard Sébastopol, vous voyez bien que c'est dans le corps de la ville qu'on tire cette grande balafre. Hein. Et on voit les deux rues Saint-Martin et Saint-Denis qui serpentent quelque peu autour de cet axe parfaitement rectiligne.
Comte Siméon, commission des embellissements. Dans le projet d'embellissement de la ville de Paris, l'empereur désire arrêter les règles suivantes. 1. Que toutes les grandes artères aboutissent au chemin de fer. 2. Que la hauteur des maisons soit toujours égale à la largeur de la rue et ne l'excède jamais. 3. Que dans les tracés des grandes rues, les architectes fassent autant d'angles qu'il est nécessaire afin de ne point abattre soit les monuments, soit les belles maisons, tout en conservant les mêmes largeurs aux rues et qu'ainsi l'on ne soit pas esclave d'un tracé exclusivement en ligne droite.
Le principal problème, c'est de relier les gares au centre de Paris. Parce que si vous voulez, en 1840, on pense que l'entrée dans les villes se fera en chemin de fer. On pense que les routes vont être abandonnées au profit des chemins de fer. Donc les vraies entrées dans Paris ne sont pas les portes telles qu'on les connaît aujourd'hui, les portes de Paris. Les vraies portes de Paris, ce sont les gares. Donc des gares, la gare du Nord, de l'Est, Montparnasse, ainsi de suite, il faut arriver au centre de Paris, c'est-à-dire arriver à Lutèce. Le centre de Paris, c'est l'île de Lutèce. Hein. Donc il faut faire converger des rues vers le quartier latin, Lutèce, vers le vrai centre de Paris. Secondairement, on emporte de l'air frais et on en profite pour faire des égouts, pour apporter l'eau potable. C'est l'époque à laquelle on fait venir l'eau de la Duise pour la rive droite de Paris, pour le Nord, et l'eau de la Vanne par la rive sud, c'est pas rien apporter de l'eau dans Paris. Et d'ailleurs, c'est la chose dont Haussmann est le plus fier. Hein. Il raconte dans ses mémoires que la chose dont il est le plus fier, c'est pas tellement des percements de rues nouvelles, c'est d'avoir apporté de l'eau fraîche et pure à tous les Parisiens. C'est-à-dire apporter de l'eau de source, parce qu'avant, on buvait l'eau de la Seine.
J'avais entrepris un voyage moins long, mais plus périlleux que le tour du monde. J'allais du passage Choiseul au Théâtre Français par la butte des Moulins. À la moitié du chemin, je compris que je m'étais fourvoyée dans une démolition générale. Mais il y avait presque autant d'imprudence à reculer qu'à poursuivre ou à rester. Devant, derrière, à droite, à gauche, partout, les pans de murs s'écroulaient avec un bruit de tonnerre. Des nuages de poussière obscurcissaient le ciel. Les ouvriers criaient gare en brandissant de longues lattes. Les chariots chargés de décombres creusaient des vallées de boue entre les montagnes de plâtras. La terre tremblait. Il pleuvait des moellons et des briques. Dans les ruines, par Edmond Abou, 1867.
Le Paris du Second Empire, donc le Paris haussmannien, est un Paris en travaux. Hein, vous avez partout des ouvriers, vous avez partout des marteaux, vous avez du bruit. C'est le legs de Napoléon III à la France que le Paris haussmannien. Mais pour les Parisiens de l'époque, ça n'était pas vraiment une sinécure. Et d'ailleurs, les Parisiens vont être très frondeurs pendant le Second Empire et vont très mal voter à toutes les élections qui leur sont proposées, les élections législatives de 1857, 63 et 69, ils voteront pour les candidats de l'opposition. Haussmann le fait remarquer à Napoléon III, les Parisiens ne vous sont pas favorables, ne les ménagez pas. Ce qui compte, c'est la ville, c'est Paris, ce ne sont pas les Parisiens.
Alors quels sont les bruits de Paris pendant les travaux ? Ça c'est intéressant de réfléchir à ça, parce que le Paris du 19e est un Paris bruyant avec des sons que l'on n'entend plus, beaucoup de cloches, des animaux, beaucoup de chevaux, le bruit des sabots sur les pavés, mais le bruit des travaux. Je pense qu'il y a un bruit de pioche, et il y a peut-être le bruit aussi de la sueur qui coule, parce qu'il y a eu beaucoup de sueur qui a coulé pendant les travaux d'Haussmann. Il y a quelque chose que l'on peut imaginer sur les sons que l'on entendait pendant les travaux sous le Second Empire, c'est la voix des gens. Ça devait hurler, ça devait crier sans arrêt. Viens, rebarre, etc. Mais ça criait pas, moi, comme je vous parle là. Ce sont tous les patois de France. Ce sont tous les patois de France. Et ça devait comme ça résonner. Il faut imaginer tout de suite qu'un ouvrier à l'ouvrage est un ouvrier qui peut chanter. Et un ouvrier qui peut chanter une chanson de là où il vient, une chanson d'Auvergne, une chanson de Normandie, dans son patois. J'aime à revoir ma Normandie, c'est le pays qui m'a donné le jour. C'est peut-être une chanson d'un ouvrier qui est venu sur les chantiers haussmanniens.
Voie nouvelle décrétée d'utilité publique. Rue de Rivoli, 1852.
Rue de Rivoli, 1852. Boulevard de Strasbourg, 1852. Rue des Écoles, 1852. Rue de Rennes,
1854.
Boulevard Malesherbes.
Boulevard Haussmann, 1854.
Boulevard Haussmann.
Boulevard Saint-Germain, 1855.
Boulevard Saint-Germain,
1855.
Boulevard Magenta, 1855. Avenue Parmentier,
1856.
Boulevard Voltaire, 1856.
Entre Napoléon III et son préfet de la Seine, Haussmann, une relation très particulière, une relation, je dois dire, unique parmi les hauts fonctionnaires du régime, puisque Haussmann a un accès direct à l'empereur. Il le voit à minima, bien évidemment, hors période de guerre et hors villégiature du souverain, une fois par semaine, voire deux, voire trois fois. Les ministres ne le voient pas autant. Les ministres de Napoléon III, sans quasiment aucune exception, peut-être Persigny ici, sont extrêmement jaloux.
Alors, 1858, c'est le renforcement du régime autoritaire à la suite de l'attentat d'Orsini. Donc ça conforte Haussmann dans sa position de césariste autoritariste. Voilà. C'est aussi la guerre d'Italie. L'éloignement momentané de Napoléon III, c'est aussi là que s'échafaude l'annexion des faubourgs de la ville. Donc, cette absence du maître, conjuguée à la mise en œuvre d'un certain nombre de projets extrêmement ambitieux comme l'annexion des banlieues, va donner à Haussmann une bouffée d'orgueil et va le porter à des rêves absolument inconcevables. Ainsi, en 1859-60, Haussmann va ni plus ni moins demander à l'empereur que d'être nommé ministre de Paris, de manière à pouvoir siéger au Conseil des ministres. C'est vous dire d'abord que cet homme n'a pas froid aux yeux. C'est vous dire aussi combien il est puissant dans l'administration impériale. Et combien, plus exactement, les travaux de Paris comptent dans l'administration de l'Empire. Napoléon III ne va pas lui accorder ce privilège, parce que les ministres vont hurler en disant « ce type est un fou, il nous enquiquine, il n'arrête pas de revendiquer, il crée, il bat monnaie, il se moque des injonctions de ses ministres de tutelle, etc. etc. »
En revanche, il lui donnera un accès direct au Conseil des ministres, ce qui est un phénomène unique. Il le nommera sénateur et il le nommera conseiller d'État pour qu'il puisse défendre devant ces deux grandes institutions lui-même sa propre politique. Donc un rapport extrêmement privilégié du souverain et de son préfet. Imaginez que aux inaugurations de boulevards et d'avenues, il lui rend systématiquement hommage. Imaginez qu'en 1862, solennellement, devant la foule des Parisiens assemblés, il lui mettra sur la poitrine la grande croix de la Légion d'honneur. Et imaginez qu'en 1864, il relèvera pour lui le titre de baron. On parle à tort, en 1853, du baron Haussmann. Il n'est baron qu'à partir de 1864. C'est le titre relevé du général baron d'Ensel, son grand-père maternel.
Du côté du jardin, la façade était autrement somptueuse. L'autel disparaissait sous les sculptures. Autour des fenêtres, le long des corniches, couraient des enroulements de rameaux et de fleurs. Il y avait des balcons, pareils à des corbeilles de verdure, que soutenaient de grandes femmes nues, les hanches tordues, les pointes des seins en avant. Puis, çà et là, étaient collés des écussons de fantaisie, des grappes, des roses, toutes les efflorescences possibles de la pierre et du marbre. À la voire du parc, au-dessus de ce gazon propre, de ces arbustes dont les feuillages vernis luisaient, cette grande bâtisse, neuve encore et toute blafarde, avait la face blême, l'importance riche et sotte d'une parvenue, avec son lourd chapeau d'ardoise, ses rampes dorées, son ruissellement de sculptures. C'était une réduction du nouveau Louvre, un des échantillons les plus caractéristiques du style Napoléon III, ce bâtard opulent de tous les styles. Émile Zola, La Curée, 1871.
On a critiqué très rapidement l'esthétique haussmannienne, enfin on dit haussmannienne parce qu'on parle aujourd'hui comme des agents immobiliers, mais à l'époque il viendrait à l'idée de personne de parler d'un immeuble haussmannien. On critique cette coûteuse hôtellerie, par exemple, dira Jules Ferry, parce que tout simplement on n'est pas habitué. Il y a une véritable rupture d'échelle. Il faut savoir que la maison parisienne type de rapport est très très étroite, hein, très haute, et qu'elle ne ressemble en rien au module haussmannien. L'élévation d'un immeuble haussmannien est presque carrée. L'immeuble est souvent aussi long qu'il n'est haut. Et puis surtout, la soudure entre le bâti nouveau et le bâti ancien est en général assez négligée. C'est très rare qu'on adoucisse la liaison.
Moi, quand j'ai commencé à travailler au début des années 90 sur les immeubles haussmanniens, je pensais, comme tout le monde, qu'il y avait des règlements. Parce que tout le monde disait le règlement d'immeuble haussmannien. Alors j'ai cherché ces règlements, je ne les ai pas trouvés parce qu'il n'y en a pas. Simplement, il n'y a strictement aucun règlement. La seule chose qu'il y ait, ce sont des conseils qui sont donnés oralement par les architectes voyers au moment du permis de construire. Mais les conseils très simples, c'est que les lignes filent. C'est-à-dire que quand deux immeubles sont voisins, il faut que les balcons soient à même hauteur. Et on dit que les immeubles se ressemblent les uns les autres. Donc régularité, alignement, c'est vraiment le béaba de l'architecture haussmannienne, c'est qu'elle est urbaine.
La grandeur de l'architecture haussmannienne, elle n'est pas dans la pièce individuelle. Isoler un immeuble haussmannien, finalement, n'a aucun intérêt. L'immeuble haussmannien ne prend d'intérêt que dans sa multiplication. Haussmann instaure une architecture sérielle. Et là encore, il est l'héritier de l'âge classique et des merveilles que l'âge classique a pu produire à Bordeaux, par exemple, où l'ordonnance de la ville contribue à faire de la ville un grand théâtre. Mais en soi, il n'est pas architecte, et cette uniformité sérielle qui se dégage de la ville haussmannienne et que saura peindre merveilleusement Gustave Caillebotte procède de contrats privés. C'est-à-dire que la préfecture, sans donner des instructions précises, glisse dans les actes notariés privés un certain nombre d'obligations aux constructeurs. Façades en pierre de taille, balcons filants, retraits sous comble, combles à brisis, c'est-à-dire à la mansarde, on dirait aujourd'hui. Voilà.
Caillebotte, c'est le peintre des perspectives haussmanniennes. C'est celui, sans doute, qui en a fait un élément de composition, qui s'en est servi d'une manière artistique, qui s'en est servi le mieux.
Paul Perrin, conservateur, dans la galerie des impressionnistes du musée d'Orsay.
Et donc Caillebotte, qui est un jeune Parisien sous le Second Empire, grandit avec cette transformation de Paris et voit s'élever ces nouvelles perspectives qui créent un sentiment différent du citadin dans la ville. Renoir, Monet, Manet également ont représenté la ville d'Haussmann, mais généralement de manière un peu différente, c'est-à-dire que par exemple Monet et Renoir représentent la ville haussmannienne, notamment à la fin du Second Empire, mais généralement il y a toujours un jardin, il y a des arbres, il y a quelque part ça adoucit justement ces lignes très inhumaines, très géométriques, très aiguës du Paris haussmannien. Et bien, au contraire, Caillebotte, quand il choisit de représenter la ville, c'est une ville extrêmement minérale, ou même métallique. Il choisit justement des perspectives comme celle du pont de l'Europe, où disons, vous avez uniquement le métal et la pierre, ou encore le très célèbre tableau qui est à Chicago, qui s'appelle Rue de Paris, temps de pluie, qui représente en fait un carrefour près de la gare Saint-Lazare, où justement il n'y a pas d'arbres, c'est entièrement minéral. Et puis, évidemment, il y a une forme de poésie, une forme de fascination pour ces espaces vides. C'est quand même, la ville haussmannienne, c'est aussi une ville qui fait une grande place au vide. Et chez d'autres artistes, il y a parfois un rapport plus conflictuel. Par exemple, Renoir, justement, est un peintre qui, dans le fond, déteste la ville haussmannienne. Déteste la régularité de ses façades, qu'il compare à une forme de d'utilitarisme. C'est presque une ville industrielle, produite à la chaîne. Et donc, il parle notamment des façades haussmanniennes comme des soldats à la parade. Mais Caillebotte, voilà, c'est différent. Lui, il vient de ces quartiers-là. Il va habiter boulevard Haussmann, juste derrière l'opéra. Et c'est de cet appartement-là, notamment, qu'il va réaliser toutes ses vues depuis le dernier étage qui donne sur les toits de Paris, avec ses perspectives, là encore, qui montre à la fois cette fascination pour cette géométrie, cette ville nouvelle, qui est celle des Français aussi de la période, et en même temps, cette volonté de se tenir à distance, et celle-là, c'est la distance de l'artiste avec le réel.
La ville a été complètement transformée en l'espace pas d'une vingtaine d'années, enfin 18 ans, le temps du régime, mais vraiment transformée de manière profonde, parce qu'on estime que la plus grande partie des maisons ont été détruites ou touchées ou modifiées dans l'ensemble de la capitale.
On est passé d'un million 80 000 habitants à 2 millions 350 000 en 17 ans. Voilà, il nous a livré une capitale beaucoup plus moderne, capable d'adaptabilité, hein, puisque cette ville que conçoit Haussmann va encaisser, si je puis dire, la révolution de l'électricité et la révolution automobile. Il n'y a pas un seul fil aérien dans Paris. Et je rappelle également qu'il n'y a pas eu de travaux majeurs de voirie jusqu'à l'ère pompidolienne. Qu'est-ce qu'Haussmann ? C'est l'homme du Grand Paris. Mais il n'est pas l'inventeur du Nouveau Paris, il en est l'âme, il en est le moteur. C'est l'Atlante, probablement d'ailleurs le seul Atlante du Second Empire.
Dégager les grands édifices, de façon à leur donner un aspect plus agréable à l'œil et une défense plus aisée dans les jours d'émeute. Assurer la tranquillité publique par la création de grands boulevards qui laisseraient circuler non seulement l'air et la lumière, mais les troupes et, par une ingénieuse combinaison, rendraient le peuple mieux portant et moins disposé à la révolte.
Napoléon III veut faire de Paris la ville idéale du XIXe siècle, une ville où tout le monde se sentirait bien, une ville pacifiée, une ville où il n'y aurait plus de barricades. N'oublions pas que Paris, depuis 1789, est la matrice de toutes les révolutions. Donc il a aussi cette idée de pacifier la capitale. Alors, et une ville qui sera pacifiée, ce sont les boulevards, des grandes artères rectilignes qui permettront éventuellement, le cas échéant, à l'armée d'intervenir pour balayer les barricades beaucoup plus facilement que dans le Paris antérieur avec ses ruelles et ses voies sinueuses. L'objectif de Haussmann diffère de celui de Napoléon III. Napoléon III a en tête l'idée d'une mixité sociale telle qu'elle existait d'ailleurs dans la ville de l'Ancien Régime, c'est-à-dire que vous avez dans le même quartier, dans les mêmes immeubles, riches et pauvres qui cohabitent. Haussmann a, il faut le dire de ce point de vue, une optique radicalement différente. Il a, c'est un bonapartiste autoritaire, il a la hantise des révoltes, des insurrections populaires, et c'est lui qui est responsable du fait que les pauvres vont être chassés du centre de la ville vers la périphérie. Des quartiers comme Belleville, dans le nouveau 20e arrondissement, vont devenir à ce moment-là de grands quartiers populaires, et il faut savoir que Belleville sera l'un des foyers de la commune en 1871. En grande partie, c'est dû au ressentiment du peuple de la capitale vis-à-vis d'Haussmann. Un certain nombre de dignitaires du régime du Second Empire, vous le savez, ont été fusillés au moment de la Commune. Heureusement, Haussmann s'était réfugié sur la Côte d'Azur parce que, pas d'ombre d'un doute, il aurait été parmi les premiers fusillés.
Quand Julien fait des boulettes, c'est un bien grand pâtissier. Quand Haussmann double nos dettes, c'est un bien grand financier. Et tous les jours il régale, comme architecte ou maçon, notre chère capitale, d'un beau plat à sa façon. Ce préfet est parfait, il fait bien tout ce qu'il fait. Ainsi qu'une tarte aux pommes, il triangule un quartier. Ah, c'est le premier des hommes pour employer le mortier. S'il crée une grande artère, il passe par-dessus tout, mais en jetant tout par terre, et lui seul reste debout. Ce préfet est parfait, il fait bien tout ce qu'il fait.
Zola a merveilleusement décrit le Paris du Second Empire, que ce soit dans le ventre de Paris ou dans la Curée.
Donc ce grand journaliste décrit une frénésie spéculative authentique. Effectivement, on exproprie, on perce, on rectifie les alignements, et puis après on rétrocède les parcelles, ou on les concède. Donc forcément, il y a de quoi attiser les appétits. Dans une période de prospérité, tout le monde se dit « je dois bâtir pour m'enrichir ». Effectivement, ça donne lieu à des spéculations douteuses, mais qui ne sont pas le fait de la préfecture. Il faut être au courant avant tout le monde. On essaye, on fait le siège de l'hôtel de ville pour obtenir des renseignements sur le tracé des voies à venir. L'idéal, l'opération idéale, c'est d'acheter des immeubles qui sont frappés d'alignement avant qu'ils soient officiellement frappés d'alignement. Donc là, effectivement, il y a un commerce douteux. On a parlé des bandes noires qui opèrent dans la mouvance immédiate de l'hôtel de ville. Et évidemment, on a tôt fait d'accuser Haussmann de toutes les turpitudes. Haussmann, lui, est blanchi de toute espèce de prévarication ou d'abus. Haussmann est mort dans un immeuble de location. Il louait son appartement à Paris. Non mais vous vous rendez compte? Alors que cet homme a été accusé d'être un bandit, hein, il est mort petitement. Haussmann touchait des émoluments très très confortables. En plus, il avait une sorte de liste civile, si on peut dire, qui était censée régler toutes les dépenses somptuaires de la préfecture. Il recevait la reine d'Angleterre à l'hôtel de ville, cet homme-là. C'était un homme très fastueux, mais il était fastueux parce que sa mission le lui demandait. Parce qu'on comptait sur lui pour magnifier l'œuvre qu'il accomplissait à Paris. Paris était le masque de l'Empire. Lui, il était le nœud qui maintient le masque sur le régime. Il lui fallait tenir ferme, vous voyez.
Madame Jules Baroche, Notes et souvenirs, 1870. Sur un mot de lui, tous les chefs de service accoururent à l'hôtel de ville en grand uniforme. Les belles voitures de gala sortirent de leur remise, les larbins avec de la poudre jusque dans les yeux grimpèrent sur leurs sièges, le bâtiment fut bouleversé en un clin d'œil. Le terrible baron faisait le branle-bas de combat sur le vaisseau de Paris. Après avoir passé l'équipage en revue, l'ex-préfet, revêtu de son costume officiel d'argent massif, disparaissant sous les plaques de ses ordres, avec le grand cordon de la Légion d'honneur passé en travers du corps, monta dans le premier carrosse. Il se planta sa bonne épée de Tolède entre les jambes et donna le signal du départ. Au profond ébahissement des bourgeoises et des marchands, on vit ce cortège solennel s'acheminer au petit pas d'enterrement du côté des Champs-Élysées, et le ministre de l'Intérieur faillit tomber à la renverse lorsque les huissiers annoncèrent de loin l'arrivée de Monsieur le Sénateur, préfet de la Seine.
Le baron Haussmann est révoqué en janvier 1870, alors que le Second Empire chute le 4 septembre 1870. Comment l'expliquer? L'avènement de l'Empire libéral, l'arrivée au pouvoir d'un républicain rallié qui s'appelle Émile Ollivier. Et Émile Ollivier a eu maille à partir avec le préfet Haussmann, préfet du Var, en janvier 1849, puisqu'il l'avait même fait incarcérer quelques jours. Et il va réclamer la tête du baron Haussmann à l'empereur Napoléon III en janvier 1870. C'est lui ou c'est moi, dira-t-il. Napoléon III ne pouvait pas se déjuger. Il venait de nommer une semaine plus tôt Émile Ollivier comme chef du gouvernement et il a dû sacrifier son préfet. Alors, il va demander à son préfet de démissionner, mais le préfet Haussmann est quelqu'un qui a de la morgue, une certaine fierté. Il va refuser, il va demander à Napoléon III de le démettre de sa fonction. Le décret va être pris le 5 janvier 1870 et on assiste à cette scène absolument incroyable où le préfet Haussmann quitte l'hôtel de ville avec les 10 000 fonctionnaires. Imaginez, il n'y en avait pas 40 000 comme aujourd'hui, mais il y en avait déjà 10 000 à l'hôtel de ville. Il va se rendre au ministère de l'Intérieur, qui se trouve déjà à l'époque place Beauvau, pour remettre sa démission au nouveau ministre de l'Intérieur, Chevandier de Valdrome, en lui rappelant qu'il a connu son père qui débutait dans le corps préfectoral quand lui, il était déjà en fonction, donc il le prend de haut. Et on va ouvrir, imaginez, des registres de condoléances à l'hôtel de ville. Et les Parisiens ne vouaient pas tous une grande admiration au préfet Haussmann, mais ils viendront quand même par milliers, voire par dizaines de milliers, signer ces fameux registres, rendant hommage au préfet Haussmann.
C'est la couverture d'un journal satirique qui s'appelle Paris Comique, qui a eu une très brève existence entre 1869 et 1870.
À Carnavalet, avec le conservateur des arts graphiques, José de los Llanos.
Ici, on a le numéro 3, daté du 15 janvier 1870. La fin du Second Empire, c'est l'époque d'épanouissement des journaux satiriques et des grands caricaturistes, Cham, par exemple, Gavarni, etc. La première, c'est une caricature qui représente Monsieur Haussmann et Mademoiselle Lutèce, d'ailleurs la ville de Paris. On voit Haussmann sur la gauche, en habit, et une dame en crinoline, coiffée d'une couronne, crénelée, qui représente donc Lutèce, la ville de Paris. Haussmann, donc, est remercié un peu sèchement le 5 janvier avec l'arrivée du ministère Olivier. Et donc on voit apparaître à ce moment-là des critiques à son égard. Et donc la légende que je peux lire ici, on voit Haussmann donc qui est derrière Mademoiselle Lutèce et qui lui dit « Est-il possible qu'après vous avoir tant aimé, qu'après vous avoir couverte de perles et de diamants et fait de vous, jadis si laide, la plus belle fille de la terre, vous me disiez zut, ingrate ?» Et voilà, on le voit ici en train en quelque sorte de défendre son bilan, comme on dirait aujourd'hui, face à l'opinion publique. Deuxième caricature, ça s'appelle la ménagerie impériale. C'est tout un portrait, tout un panorama effectivement de personnages qui sont représentés sous la forme d'animaux. Celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la numéro 8 qui représente le baron Haussmann, donc Haussmann, sous la forme d'un castor. On va la décrire par Haussmann imberbe ici, parce qu'il s'est rasé la barbe à la fin de sa carrière, et dans les photos où on le voit plus âgé, d'ailleurs il n'a plus ce collier de barbe, ce qui le signalait, qui l'identifiait facilement dans les portraits antérieurs. Donc une grosse tête du baron Haussmann, tenant avec un tout petit corps de castor. On voit bien la queue du castor au premier plan, et le castor tenant une petite truelle et s'appuyant sur un immeuble parisien au bord d'une rue plantée d'arbres. Et entre parenthèses, il est écrit « activité lucre ». Alors l'activité, c'est plutôt une donnée positive. Dans beaucoup de ces caricatures, les charges sont peut-être encore plus violentes. Le lucre, l'appât du lucre, bon, ça, c'est-à-dire les soupçons de corruption, et puis l'environnement général d'enrichissement personnel très fort, qui a donc présidé en quelque sorte aux travaux d'embellissement et d'enrichissement de Paris à cette époque-là.
Quoi qu'il en soit, lorsque je me rappelle, en traversant chaque jour des quartiers de Paris que j'ai transformés, la somme de labeur et de tourments dépensés par moi durant les 17 années de mon édilité si combattue, j'éprouve une fierté qui n'est pas sans quelques mélanges d'amertume en faisant un retour sur ma situation présente. Tandis que la génération actuelle recueille tous les profits de l'œuvre colossale dont je fus le principal ouvrier et l'admire même à l'occasion, moi je ne conserve du fruit de tant d'efforts que l'honneur d'avoir bien servi mon pays dans un poste aussi difficile qu'élevé.
Dès 1870, il fuit la Commune. Il n'est pas à Paris pendant la Commune, bien évidemment. Il fuit, il voyage en Europe. Il prétend avoir été appelé à Rome, à Istanbul. Et quand il rentre à Paris, il est élu député à la faveur d'un regain, un petit regain bonapartiste. Donc voilà, les 12 dernières années de sa vie sont des années extrêmement paisibles, je dirais petites, assez tristes. Une très lente mort. Une mort lente dans la réprobation, dans l'opprobre, dans l'abandon de tous ceux qu'il avait promus, de tous ceux qu'il avait soutenus, parce qu'il a quand même placé du monde, Haussmann, en 17 ans de magistrature. Alors il se replie sur sa famille, et il entreprend la rédaction de ses mémoires, qui ne sont qu'un plaidoyer en faveur de l'œuvre qu'il a accomplie à Paris. Alors, ses mémoires sont très intéressantes. Ces mémoires nous donnent beaucoup d'indications sur les dispositions psychologiques de l'homme. Les mémoires nous donnent encore beaucoup de précisions sur les détails techniques du chantier. Pour le reste, dès qu'il s'agit de considérations politiques, ces mémoires sont un collier de mensonges, voire de travestissements, on va dire, de la vérité. Il est vrai qu'en 1870, quand le Second Empire s'effondre, Paris n'est pas du tout le Paris qu'on voit aujourd'hui. On n'en est pas à l'ébauche, mais on est à mi-chemin, hein, de la construction du Paris haussmannien.
Et les 20 ans qui suivront la destitution du Second Empire ne seront que la continuation servile du projet napoléonien servi par Haussmann. Et d'ailleurs, c'est si vrai que ce sont les seconds couteaux, les lieutenants d'Haussmann qui vont poursuivre ces travaux jusqu'en 1891. C'est Adolphe Alphand, l'homme des jardins, des promenades de la ville. C'est Gabriel Daviou, l'architecte de la ville, celui à qui on doit les kiosques, les chalets, alors les théâtres aussi, la Fontaine Saint-Michel. Mais c'est lui à qui on doit le mobilier urbain. Pour la première fois, une ville se dote d'un mobilier urbain cohérent qui contribue à uniformiser l'espace parisien. Des quartiers pauvres comme aux quartiers riches. On trouve les mêmes bancs, Alphand. On trouve les mêmes becs de gaz. On trouve... Voilà. Alphand, Belgrand, l'homme du réseau souterrain et des égouts de Paris, le génie des égouts de Paris, continuera à travailler après la chute du Second Empire. Et je disais jusqu'en 1891, parce qu'en 1891, alors Belgrand et Daviou sont morts ou abandonnent leur poste, mais c'est l'année où meurt Alphand. Mais c'est l'année aussi où meurt Haussmann. Ce qui est assez extraordinaire, c'est que ces deux hommes meurent en même temps. Et là, on peut dire qu'en 1891, le chantier de Paris, qui n'est pas achevé, va prendre une tournure différente de celle que lui avaient imprimée Napoléon III et Haussmann.
Qui de nos jours, parmi les contemporains, a gardé mémoire des rues Saint-Nicaise, du Doyenné, de Chartres, où se trouvait l'ancien vaudeville, un boui-boui, Saint-Thomas-du-Louvre, du musée, précédemment Froidmanteau, d'une part, des rues Lévesque, des remparts, Pierre Lescot, l'ancienne, le nom du célèbre architecte est porté maintenant par une des larges voies encadrant les halles centrales, du chantre, de la bibliothèque et des poulies d'autre part, et plus loin, des fossés Saint-Germain-l'Auxerrois, Chilpéric, Tirechap, des orties, Jean-Pin-Mollet, de l'Arche-Marion, du Chevalier du Guet, Perrin-Gasselin, des mauvaises paroles, de la limace, de la friperie, des fourreurs, de la tixeranderie, etc., etc. Que les étroites et tortueuses rues du centre, surtout, fussent presque impénétrables à la circulation, sales, puantes, malsaines, ils n'en ont aucun souci. Que nos percements, nos prétendus embellissements, aient doté vieux et nouveaux quartiers d'espace, d'air, de lumière, de verdure et de fleurs, en un mot de ce qui dispense la salubrité, tout en réjouissant les yeux, la belle affaire. Dans tous les cas, ce n'est pas la leur.
C'était Une vie, une œuvre, Georges Eugène Haussmann, le préfet qui bâtit Paris. Avec Xavier Mauduit, Éric Anceau, Nicolas Chaudin, Anne de Mondenard, Pierre Pinon, Paul Perrin et José de los Llanos. Merci à l'Opéra de Paris et à Maïté Metz. Prise de son, Yann Frécy et Antoine Viossa. Mixage, Delphine Baudet. Musique, Romain Couturier. Lecture, Renaud Bertin et Élodie Hubert. Attaché de production, Claire Poinsignon. Coordination, Christine Bernard. Un documentaire de Camille Jusa et Charlotte Roux.
Vous pouvez podcaster cette émission et retrouver la collection Une vie, une œuvre sur la page du site sur franceculture.fr, une page préparée par Pascaline Bonnet. Et tout de suite, nous retrouvons Étienne Klein et la conversation scientifique.